Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, oui, ils veulent acheter ton bloc. Airfortin.com, yes.
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
Vous étiez à l'écoute de La Boîte, nouvelle émission à CJMD 96.9. Vous écoutez La bulle immobilière, saison 10. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, dans le droit... t'es dans le droit des affaires. Y a-t-il des nouveautés qui se passent actuellement? Y a-t-il des choses qu'on doit avoir un petit clin d'œil sur qu'est-ce qui se passe dans l'actualité?
Bien, en fait, depuis un an, honnêtement, il y a énormément de changements au niveau légal. C'est fun parce que les clients ont besoin de plus en plus de nous. En fait, encore plus de nous, mais dernièrement, depuis mars, c'est les registres de bénéficiaires ultimes qui ont changé, dans le sens que les compagnies sont habituées que leurs comptables, quand ils font leur rapport d'impôt, ils cochent une petite case, ça fait leur déclaration annuelle en même temps, donc ils n'ont rien à s'occuper au niveau du registraire des entreprises. Mais depuis mars, on est obligé vraiment de divulguer c'est qui détient au moins 25 % de la compagnie, c'est qui les administrateurs, et même donner nos pièces d'identité à Revenu Québec. Donc, sur le site du registraire des entreprises. Donc là, c'est le fun parce que ça nous amène beaucoup de mandats, parce que les clients nous consultent et disent « Notre comptable n'est plus capable de faire nos déclarations annuelles. » On doit les faire et nous, automatiquement, maintenant, dès qu'il y a un changement au registraire des entreprises, on a besoin d'une copie d'une pièce d'identité. Donc, c'est quand même un gros changement. Et dans le livre de société, il faut vraiment venir déclarer qui sont les bénéficiaires ultimes. Par rapport à ça, c'est comme un peu, mettons que j'aurais quatre actionnaires qui sont quatre compagnies, mais tu sais, il faut vraiment que j'aille gratter en arrière pour vraiment l'individu. Je peux pas juste écrire dans le livre de minutes maintenant les quatre actionnaires, là, Québéking. Faut vraiment, puis tu sais, même si c'est là détenu par une fiducie, tu sais, il faut vraiment les gratter jusqu'au dernier avec sa date de naissance. Fait que tu sais, c'est vraiment.
Ah, ouais?
Oui, ils viennent vraiment gratter.
Aïe, aïe.
Oui. Fait que ça, c'est un changement depuis mars. Fait que c'était quand même assez récent. Puis on commence à voir là, justement les répercussions par les demandes de nos clients.
Ça veut dire qu'au registrant des entreprises, là, ils vont aller creuser pas mal plus loin. Là, parce que c'est pas rare qu'on voit au registrant des entreprises une compagnie qui détient une autre compagnie. Puis après ça, ben, on fait une deuxième recherche pour voir cette compagnie-là est détenue par qui. Puis après ça, mais là, tu sais, pour moi, ils vont vouloir faire quasiment...
Ouais.
L'organigramme en...
À date, c'est pas tout affiché. T'sais, ce qu'on leur fournit comme nouvelle information n'est pas disponible quand on fait juste consulter. Par contre, ça se peut très bien que ça devienne un jour accessible, effectivement, parce qu'on leur donne cette information-là. Puis dans les livres de minutes, on s'apprête à acheter une compagnie, ben une des choses qu'on vérifie dans le cadre de la vérification diligente, c'est évidemment le livre, donc ce fameux registre plutôt des bénéficiaires ultimes, donc on va venir vraiment savoir c'est qui, effectivement, derrière. Fait qu'ils ont un souci de transparence, là. Je pense qu'ils faisaient ça pour les blanchiments d'argent, les prénoms et tout, mais tu sais, ça rajoute quand même quelque chose. Et en début d'année, il y avait toutes les nouvelles règles au niveau des renseignements confidentiels, toutes les nouvelles procédures qu'il faut faire. Fait que ça nous tient occupés. Puis au niveau des renseignements confidentiels, c'est sur 3 ans les changements législatifs par rapport à ça. Fait que, tu sais, nous, on se tient à jour, on est là pour conseiller nos clients. Si ça vous intéresse ce que je suis en train de dire, là, vigiquebec.com, on a accès à l'infolettre. Nous, on donne beaucoup, beaucoup d'informations à nos clients, là. Donc, il y a toujours des infolettes quand il y a une nouveauté pour que les clients soient au courant. Fait que, client, pas client, si vous inscrivez à l'infolettre, vous allez avoir vraiment tous ces changements-là.
Puis, tu sais, en toute franchise, les infolettes sont lues parce que à toutes les fois, je les reçois, il y a des articles qui viennent toujours me toucher. Puis, je sais comment ça, je trouve ça intéressant. Puis, on vient lire le contenu. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, plus qu'on affiche, puis qu'on propulse de l'information, tu sais, de la documentation informative, bien, ça devient vraiment intéressant aussi, là, parce que, tu sais, c'est pas juste d'offrir des services professionnels, mais c'est aussi d'instruire les gens. Puis, un gros merci pour ça, mais hey, méchant changement quand même, là.
Quand même, effectivement. Donc, puis, ça s'en va là.
Tu vois, Sylvie, on parle d'immobilier, on parle de plein d'affaires qui vient toujours englober l'immobilier. Puis, une des choses qui fait en sorte que notre émission est si nichée sur l'immobilier, c'est qu'on reçoit des spécialistes, on reçoit des gens qui sont passionnés, puis ils viennent nous parler un peu de leur parcours, de qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Puis, tu savais-tu que j'avais étudié en architecture?
Non.
Oui, exact. J'ai étudié en architecture ici au cégep de Lévis-Lauzon. J'ai fait mon cégep ici. Par la suite, j'ai travaillé dans l'Ouest canadien. Puis, j'étais revenu de l'Ouest canadien parce que j'étais supposé avoir un contrat dans ça à titre de technicien. Puis, finalement, ben, j'étais arrivé trop tard. J'ai manqué à job. Puis, c'est à cause de ça que j'ai parti mon école de badminton. C'est fou, hein? Mais écoute, je suis un gars qui est ultra passionné. Maintenant, je suis courtier immobilier. On génère, tu sais, des centaines de transactions annuelles. On a une équipe immobilière qui est ultra performante. Mais, tu sais, j'ai étudié par la suite en marketing international. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment plus un parcours naturel, l'immobilier, le marketing, l'immobilier, tu sais, l'architecture. Fait que, tu sais, j'étais comme un gars vraiment passionné. Puis aujourd'hui, on reçoit Antoine Guy, architecte, d'Atelier Guy, architecte. Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Écoute, faut baisser un peu la pression, ça va, c'est tout est cool, puis pour vrai, ça va être vraiment le fun, parce que on l'a eu en pré-entrevue, puis tu sais, écoute, les projets en menant, il y en a eu un puis un autre qui ont été réalisés, vous avez des super beaux succès que vous avez accomplis aussi, vraiment un grand bravo, mais avant de parler des accomplissements, j'aimerais ça savoir, mais qu'est-ce que c'est Atelier Guy, puis Antoine Guy, pourquoi l'architecture, puis comment ça t'est venu à toi?
Ben d'abord, je tiens à vous remercier de me recevoir ici sur la plateforme. Je suis super content et honoré d'être là. Puis je savais pas que tu avais étudié en architecture. Je trouve ça intéressant de savoir. C'est quand même un métier qui intéresse beaucoup les gens, je pense. Puis ça nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Ben moi, j'ai un parcours un petit peu particulier dans le sens où l'architecture, pour moi, c'était évident que j'allais là-dedans dans ma vie, même quand j'étais très jeune. Mon père est architecte aussi. Puis il y a toujours un peu nourri en moi cet appétit-là d'être architecte. Fait que, mais bon, disons qu'au cégep, j'ai été un petit peu, j'ai pas pris ça très au sérieux, même que je pensais peut-être être professeur de kung-fu. Fait que
sport et architecture, donc il y a des liens à faire.
T'avais-tu été un athlète élite à l'époque?
Non, j'en ai fait pendant 5 ans, puis je tripais vraiment là-dessus.
C'est cool, ça.
Fait que mon père était un peu découragé, il dit « OK, il va lâcher l'architecture pour aller là-dedans », mais non, finalement, la nature est revenue au galop, puis je me suis relancé. Fait que donc, bref, cégep, j'ai fini ça. Après ça, j'étais allé à l'école d'architecture à l'Université Laval, fait mon bac, ma maîtrise. Puis, à la même époque, mon père, lui, il finissait sa carrière. C'est sûr qu'il était autour de 60 ans. Puis, lui aussi, un parcours un peu particulier. Il a décidé, pour différentes raisons avec ses associés, le gros bureau qu'il avait démarré avant, qu'il laissait ça, puis partirait un petit bureau vers la fin de sa carrière. Puis, c'est ce petit bureau-là dans lequel, moi, j'ai décidé d'aller faire mes stages. J'étais un petit peu sur un dilemme à savoir si j'allais aller dans ce bureau-là ou avoir une expérience ailleurs, dans un autre bureau, que j'aurais aimé aussi avoir, mais je savais aussi qu'il était vers la fin de sa carrière. Fait que je me disais, si un jour je reprends le bureau, ben c'est l'occasion ou jamais.
Oui, il y a une belle opportunité, là.
Il y avait une très belle opportunité, puis en même temps, tu sais, je savais que tout était à faire parce qu'il y était juste 3 bureaux, fait que c'était pas très gros. Fait qu'il y avait tout un landmark, une nouvelle image de marque. Puis en même temps, ça, j'aimais ça, cette flexibilité-là. Fait que bref, j'ai commencé à faire mes stages là dès 2008 à peu près. Puis l'été, puis après ça, je suis rentré à temps plein. Puis là, j'ai repris la firme, j'ai changé le nom. À l'époque, c'était Claude Guy Architecte. Là, j'ai changé pour Atelier Guy Architecte. 2 ans plus tard, mon copain que j'ai rencontré à l'école d'architecture s'est joint à moi. Puis lui aussi, il avait cette vibe entrepreneuriale là. En même temps, on est super complémentaires. Lui, il est plus gestionnaire. Il est bon dans tout le PR, dans toutes ces choses-là. Il est vraiment une tête très, très entrepreneur. Puis moi, je suis plus le côté artiste là-dedans. Fait que ça faisait vraiment un bon match. Puis finalement, de fil en aiguille, ben justement, Atelier Guy Architecte a vraiment cru. Lui est arrivé en 2014. Puis là, on a pris des mandats de plus en plus diversifiés. C'est sûr qu'à l'époque de mon père, le Claude Guy Architecte, c'était plus du multi-résidentiel. Puis nous, on a après quelques années, vers 2016, on a ouvert un petit bureau de consultation à Saint-Jean-Port-Joli. Puis là, de là, a rayonné le bureau. Puis on a ouvert un nouveau volet qui est plus sur l'industriel, l'utilisation du bois. On va en parler un petit peu plus tard. Fait que, comme ça, bon an, mal an, l'entreprise a vraiment
grandi, là.
Ouais, là, c'est-à-dire, on est rendu une quinzaine au bureau. Puis on va même ouvrir l'actionnariat à trois futurs actionnaires au bureau qu'on est très heureux de faire. Donc, voilà.
Puis, ça c'est une façon de fidéliser, j'imagine, ces employés-là, l'ouverture à l'actionnariat.
Oui.
C'est bien. Puis comment ça marche, le recrutement? Avez-vous beaucoup de difficultés ou c'est quand
non,
même...
Non, pas si pire, honnêtement. C'est sûr que c'est un défi, mais en même temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, je pense que, veux pas, ça se parle entre eux, puis eux autres, ils ont des amis, puis ils ont beaucoup de relations. Fait que les gens qui sont rentrés au bureau dans les dernières années, d'un, sont super fidèles, il y a pas vraiment de roulement. Je pense qu'on a mis en place quelque chose qui est vraiment une atmosphère très flexible, de confiance, puis... C'est comment dire, c'est très convivial, amical au bureau. Puis on a un bel espace de travail, mais tu veux pour dire que les gens sont rentrés, puis ils connaissent souvent d'autres personnes, puis là, c'est par référence qu'ils rentrent. Mm-hmm. Puis,
c'est quand même cool. Fait que, c'est une belle philosophie, puis c'est une belle culture d'entreprise. Quand tu es venu ici, tu te disais, je trouve ça le fun, ton ambiance un peu quasi. Oui, vous avez des bureaux professionnels, mais vous avez le droit aussi d'être confortable, puis de pouvoir avoir un espace de travail agréable. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même vraiment le fun. Puis, tu sais, une des philosophies que vous avez, c'est que vous voulez offrir aussi le maximum de disponibilité aussi pour vos clients. Fait que, tu sais, vous voulez pas juste être dans des cases horaires, regarde dans mon calendrier si je suis disponible ou pas. De quelle façon vous l'amenez à l'intérieur de la business? Parce que, tu sais, on est dans des services facturables à l'heure où, tu sais, des fois, ça va être des forfaitaires de projets.
Ouais.
Mais, tu sais, souvent, les gens, ils vont avoir peur de téléphoner son professionnel parce qu'il sait que l'appel de 15 minutes va être facturé à l'heure. Fait que, tu sais...
je dirais que... comment je dirais ça? On a parti... Tu sais, quand c'était Claude Garchetec, c'est un petit bureau, puis il travaillait avec des promoteurs privés. Puis tu sais, avec des promoteurs privés, on apprend à prendre du risque. Je sais pas ce que je veux dire, mais être très disponible à notre clientèle, avoir une relation d'interaction très proche. Tu sais, exemple, quand le téléphone sonne, on le prend. Aussitôt, on essaie de répondre dans les heures. Fait que c'est comme une valeur qu'on a conservée au bureau, d'essayer de rester très proche, puis de donner un suivi très rapide, de pas faire durer les choses, puis de rester proche. Oui, c'est ça, de garder cette proximité-là. Les clients l'apprécient beaucoup. Puis c'est une culture qu'on essaie de fil en aiguille, transparaître avec nos nouveaux chargés de projet au bureau, de garder ce contact client-là très proche. Parce que c'est quelque chose que les clients apprécient beaucoup, là, de ne pas sentir que leur dossier est délégué à d'autres.
Définitivement, là, parce que
c'est dans les coins. Là,
ma première expérience avec un professionnel, je suis courtier immobilier depuis 2011, fin 2011. Écoute, j'ai commencé en septembre, puis en décembre, je m'incorporais, puis tu sais, j'ai fait la démarche avec un fiscaliste. J'ai eu une question par la suite, ça a duré 15 minutes, j'ai reçu une facture de 250$, j'étais comme, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, c'était comme mes premières expériences professionnelles, puis j'étais comme, il va falloir que je sois concis dans mes demandes. Parce que j'étais comme, écoute, moi, tu sais, je voulais comprendre, je voulais prendre le temps, etc. Puis j'étais comme, non, tu sais, le timer, il roule, là. Fait que tu sais, ça a été vraiment dans les premières expériences, puis... C'est au-delà de ça que vous démarquez. Là. Vous avez fait des projets industriels, vous faites des projets neufs.
Ouais.
Vous faites de l'agrandissement, de la densification, de la rénovation aussi de centres urbains, puis beaucoup de multi. Mais tu sais, quand on parle de projets de rénovation dans des centres urbains, là, on parle des centres comme Québec, etc.
On a comme un volet hybride. T'sais, comme je parlais tantôt, on a un petit bureau de consultation à Saint-Jean-Port-Joli. D'abord, ça a démarré à Québec, puis à Québec, on faisait beaucoup de projets multirésidentiels au départ. Fait qu'on était vraiment nichés dans le multirésidentiel. Mais de fil en aiguille aussi, avec des clients qui développent beaucoup dans les quartiers centraux, il y a beaucoup de particularités dans les quartiers centraux. Tu sais, il y a le volet patrimonial, il y a le volet archéologique, il y a le volet des réglementations, zonage. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'exigences. Même master, le ministère de l'Environnement, c'est les zones inondables dans le Vieux-Port. Fait que ça fait beaucoup de critères à respecter. Fait que bref, on a développé une expertise à travailler dans ces milieux-là qui sont super sensibles. Puis il faut évidemment... assister notre client dans ce parcours-là qui est très long. Fait que dans les quartiers centraux comme Québec, effectivement, on a fait beaucoup de projets d'exhaussement, agrandissement, rénovation dans des vieux bâtiments. Puis, quand je disais volet hybride, c'est qu'exemple, dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli, ben là, c'est plus du pavillonnaire, donc des nouvelles usines, des sièges sociaux. C'est là qu'on a développé l'expertise sur le bois, notamment avec des partenaires locaux, exemple Art Massif ou Linéaire Design aussi, qui sont très pointus, nichés dans ce domaine-là.
C'est quand même cool.
Exhaussement.
Exhaussement, c'est qu'un exemple, on va hausser du bord d'un duplex, on va monter d'un étage ou même un bâtiment en ce moment, il fait juste un étage, puis on en regarde pour le hausser de plusieurs étages.
Je comprends.
Fait que,
C'est quand même cool, hein? Puis au niveau des services, vous êtes vraiment là dans l'accompagnement complet, là. T'sais, on parle justement de de développement harmonieux, d'assister des clients dans les développements de leurs projets, de l'analyse de potentiel, parce que, tu sais, au-delà de faire des plans, de commencer au départ par l'analyse de potentiel,
ouais.
C'est quand même cool que vous faites ça, là.
Oh, et puis un site, tu sais, il y a tellement de particularités, il y a tellement de potentiel. C'est, au début, ça vaut quand même la peine de bien l'étudier, de voir c'est où, comment on peut le développer pour le maximiser. Puis aussi, c'est le promoteur, pour que son projet soit un succès, il doit aussi se dire, bon, c'est quoi la vision que je veux donner? C'est quoi la clientèle que je vais aller chercher? Il faut vraiment faire un devoir de réflexion. Puis c'est vraiment quelque chose en synergie avec lui. C'est comme un jeu de tennis, je dis souvent, où on se renvoie la balle. J'envoie quelque chose, ça le fait réfléchir, il revient une nouvelle information. Puis c'est vraiment un travail vraiment interactif. Ouais, exact, tout à fait. Parce que lui, ça va y amener, évidemment, le promoteur en question, ça va y amener à des réflexions qu'il n'avait pas réfléchi quand il commence à voir sur son site des choses apparaître. OK, ouais, tu peux faire ça de même. OK, j'avais pas vu ça. Puis c'est là que ça devient intéressant.
Puis en même temps, c'est que vous êtes là vraiment pour les assister à d'autres niveaux, que ce soit autant sur les appels d'offres, parce que ça fonctionne beaucoup pour des appels d'offres, des soumissions.
Bien, c'est sûr que dans le privé, ça va dépendre. Exemple, quand on parle d'un. Encore là, je reviens souvent avec l'exemple des promoteurs dans le multirésidentiel. Souvent, ils sont promoteurs, mais ils peuvent être aussi entrepreneurs. Fait que c'est sûr que le processus d'appel d'offres, soumission, on va peut-être être moins là, mais je parle plus dans des dossiers plus publics ou tout ça, où là, tu as des processus d'appel d'offres. On va sortir des addendas pour changer ou répondre à des questions de soumissionnaires durant la période d'appel d'offres, puis aussi de valider les soumissions. Sont-elles conformes?
Puis sur la construction, votre travail se fait pas juste sur les plans en amont. Ça se fait aussi pendant puis après. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que vous faites des visites de chantier réguliers à tous les jours, à toutes les semaines? Est-ce que vous avez des chargés de projet qui sont présents? Comment ça fonctionne?
Bien, souvent, tout ce qui est la surveillance de chantier, ça va être affecté souvent à un technologue principal au bureau qui a une bonne connaissance technique, mais l'architecte chargé de projet va quand même rester là, présent. Puis on va dire que la surveillance va être partagée entre les deux acteurs. Souvent, c'est quelque chose qui est statutaire. On va dire, par exemple, une réunion deux semaines, on va faire une visite de chantier, puis on regarde, bon, y a-tu des déficiences, y a-tu des choses qu'on doit corriger, y a-tu des modifications qu'on doit faire. Puis des fois, on va faire aussi le suivi des coûts, parce que si on fait le contrôle des coûts de l'entrepreneur, bon, on valide ses demandes de paiement, on les accepte ou on va apporter quelques corrections puis les retourne aux clients.
Je suis curieuse de connaître le projet sur lequel tu es le plus fier, tu sais, sur lequel vous avez travaillé, que tu es comme « wow ». Ça, c'est un « wow » dans l'équipe.
Récemment, le projet Smart Mill, qui a gagné un prix Secobois en 2023. Oui, récemment. Pas 2021, je me trompe avec un autre. C'est particulièrement un très beau projet qu'on est vraiment fiers au bureau. Il y a quasiment tout ce qu'on aime faire dans un projet. Il y a vraiment... optimisé au niveau de l'enveloppe, on a réfléchi à des systèmes. Après ça, il y a une forme qui est très particulière. On a un étage en pont qui est comme emporté de 9,5 mètres par-dessus le vide avec une structure en cantilevé. Peut-être vous irez voir les images sur notre site Internet. Il y a une cour intérieure. En tout cas, c'est vraiment un beau projet, tout en lamellé collé avec une usine derrière qui avec un pont roulant qui est là-dedans avec une immense poutre en plein cintre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce projet-là.
Ça, c'est disponible sur votre site web.
Oui, vous allez le voir sur le site Internet. Puis c'est Smart Mill, c'est un siège social qu'on a fait ici dans un centre, un parc industriel à Lévis, d'ailleurs.
Ah oui? Tu connaissais-tu ce building-là, Jeff?
Du tout, mais sauf que je suis super impliqué aussi dans le réseau des parcs industriels. Fait que peut-être qu'à un moment donné, on va avoir l'occasion d'aller...
C'est pas loin du Q-Scale, c'est le voisin.
Parce que, tu sais, ça fait quand même... c'est quand même super intéressant. Puis écoute... t'es un gars qui est passionné, t'es un gars qui aime ça, qui en mange, qui en dévore. C'est sûr que t'as eu des architectes qui ont influencé un peu ton style ou ta démarche ou des fois tes réflexions un peu plus loin. T'as-tu des projets, des fois, que tu dis « Hey, ça, c'est des projets qui, pour moi, m'ont inspiré énormément dans... »
Bien, c'est sûr qu'il y a des références dans le monde, il y a des références au Québec de différentes générations. Dans le monde, bien, c'est... Peter Zumthor, c'est un architecte suisse que j'aime beaucoup. Il travaille sur l'enveloppe. Herzog et Meuron aussi, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup la texture dans les bâtiments puis font des affaires complètement pétées que j'ai visitées quand j'ai fait quelques voyages.
Wow, c'est cool ça.
Oh, et puis c'est des formes là. Exemple, il y a un bâtiment à Barcelone, ça a l'air d'une éponge. C'est fait en plan, ça a l'air d'un triangle. Puis quand tu peux marcher en dessous, puis il y a comme des cours intérieurs. En tout cas, c'est complètement pété. Puis ça a l'air vraiment d'un fromage suisse. Là. C'est un musée ou je ne sais trop. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant.
Ça, c'est pas Gaudi justement qui a fait ça à Barcelone?
Non, ben à Gaudi, ben lui, c'est un architecte un petit peu plus vieux. Il a fait plein de choses à Barcelone, mais ça, okay, c'est un peu récent.
Un plus récent, ouais. OK.
Puis même ici au Québec, bien évidemment, vous connaissez peut-être Pierre Thibault qui travaille beaucoup avec le bois. C'est un architecte qui a vraiment su apporter une philosophie en architecture. Il est quand même un bon porte-parole de notre métier. Puis Agence spatiale ici aussi à Québec, je trouve qu'ils font vraiment, c'est pas les seuls, mais j'admire beaucoup leur...
Mais surtout Atelier Guy Architecte aussi, là.
Exact. Ça, c'est notre équipe. Yes.
Toute votre équipe, c'est
ça. C'est mes meilleurs.
Nos émissions sont toujours disponibles en podcast sur nos sites web, jean-françois-morin.ca, labulleimmobilière.ca, vigiquebec.com et aussi sur toutes nos plateformes, podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et
Balados!
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc.
Et œuvre d'art pour les yeux et les papilles.
Vous écoutez CJMD. Classique rap, hip-hop actuel,
unique au Québec.
Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Guy, architecte de Atelier Guy Architecte. C'est une personne que je côtoie régulièrement dans le réseau immobilier. C'est une personne que je côtoie aussi à l'extérieur pour divers événements. On est des passionnés de l'immobilier, fait qu'on se côtoie dans divers réseaux. Fait que je trouve ça quand même super intéressant. Puis la dernière fois qu'on s'avait parlé un peu plus, c'était justement au colloque du réseau immobilier, puis c'est là que je t'avais invité parce que vous aviez un kiosque là-bas. C'était vraiment cool, les présentations que vous aviez amenées là-bas, puis on voulait en apprendre un peu plus sur justement Atelier Guy Architecte, de quelle façon vous travaillez, puis c'est quoi les nouvelles tendances, puis tu sais, il y a plusieurs lignes directrices ou des lignes de pensée en architecture. Il y en a qui vont prendre un chemin où ce que tu sais, c'est telle façon de faire qu'on doit concevoir. Il y en a d'autres qui vont dire, oh non, nous, c'est d'une autre façon qu'on doit le faire. Le bois, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, qui a été intégré depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Puis, c'est quoi les avantages du bois?
Écoute, il y en a beaucoup. Il y en a de nombreux avantages du bois. Nous autres, un peu, on travaillait déjà avec le bois depuis dans certains projets, mais c'était surtout réservé à des petits projets mineurs avant. On sait tous, on fait des maisons en bois d'ossature légère, c'est commun. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, depuis quelques années, comme tu l'as dit, c'est qu'on l'utilise dans des bâtiments multirésidentiel de plus que, exemple, 3 étages. Le code maintenant le permet. Puis aussi dans les bâtiments parfois institutionnels ou commerciaux, même quand le code le permet. Fait il y a à la fois eu un lobbying, notamment par Secobois, pour essayer de promouvoir le bois. Puis nous autres, on a embarqué là-dedans de fil en aiguille par un peu des concours de circonstances, comme je disais tantôt, parce qu'on a développé sur la Côte-du-Sud, puis on a travaillé avec des collaborateurs qui sont très forts. Exemple, Saint-Jean-Port-Joli, vous savez peut-être que c'est vraiment l'endroit, la mecque de la sculpture sur bois depuis longtemps. Puis avec tout ça, c'est construit comme d'une culture locale d'utilisation du bois. Donc, je parlais justement Art Massif et Linéaire Design qui travaillent avec ce savoir-faire-là. Fait que bref, tout ça pour dire que nous autres, on a travaillé avec cette ressource-là. Mais oui, les avantages, il y en a plusieurs. D'abord, on le sait tous, c'est une ressource qui est locale, une ressource qui est renouvelable, c'est une ressource qu'on a en abondance. C'est peut-être quelque chose qu'on sait moins, mais quand on fait des bâtiments en structure de bois, on stocke du carbone dans nos bâtiments. Ça veut dire qu'au lieu que les arbres vont, par exemple, maintenant un arbre, ça va pourrir, dépérir, ça va émettre du carbone dans l'atmosphère. Ben, quand on le coupe avant ça, ben, ça vient stocker justement du carbone. Donc, 1 mètre cube de bois dans une construction, ça sauve 1 tonne de carbone dans l'atmosphère. Fait que c'est vraiment une façon très originale de faire sa part finalement au niveau des gaz à effet de serre. L'autre façon aussi, c'est que, faire transformation du bois et sa construction, ça émet beaucoup moins aussi de gaz à effet de serre qu'une structure d'acier ou de béton dans sa construction.
Parce que on doit extraire le minerai. Exactement. Après ça, on doit faire fondre le minerai, doit mouler le minerai, travailler le minerai. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple de travailler avec un arbre, la machinerie.
Ça demande moins, c'est moins énergivore finalement pour transformer un bio de bois ou un arbre en une poutre de bois qu'un minerai en poutre d'acier.
La question quiz de la néophyte, Sylvie Bougie. Non, mais tu sais, pour l'APH chez LEC, quand on parle des critères de développement durable et tout, est-ce que ça fait partie de ça quand on choisit nos matériaux de construction puis qu'on prend le bois versus...
Là-dessus, je suis moins connaissant parce que je sais que c'est un nouveau programme qui est rentré en compte. Puis il y a le volet un peu accès universel, il y a le volet énergétique avec le nouveau code CNEB 2015, puis je pense qu'il demande d'être 20% supérieur. Puis il y a aussi un volet, l'autre chose, c'est quoi donc? Je pense l'abordabilité des logements aussi. Fait que je pense qu'il traite peut-être moins de l'utilisation du bois ou de ça.
Puis, parce que je trouvais ça intéressant, là, quand même, avec les impacts. Il n'y aurait pas à en tenir compte.
Mais écoute, dans mes projets avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, tu sais, les dernières constructions, quand on regarde les constructions, sont toutes faites en béton. Tu sais, actuellement, là, sont majoritairement toutes faites comme ça. Puis avec mes entrepreneurs, ils ont dit, écoute, on a commencé à réévaluer nos projets si on pouvait pas les faire en bois. Puis on parle d'immeubles de 5-6 étages. Ouais. Puis là, j'étais comme, j'ai dit, crime, je trouve ça cool. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses me glisser un mot sur c'est comment maintenant qu'on peut, je veux pas dire contreventer un bâtiment en bois aussi performant qu'un immeuble de béton, mais de quelle façon que l'ossature devient performante.
Ben, la ceinture peut venir performante sur plein de points, mais si tu me permets, je vais revenir sur des avantages que j'ai pas encore dit.
Ben oui,
parce que le bois, c'est aussi un matériau qui est plus léger que le béton ou l'acier. Mm-hmm. Fait qu'exemple, si on construit sur un site où la capacité portante des sols est moins forte, ben ça peut permettre d'avoir des fondations qui sont moins costaudes qu'exemple si on est en béton ou justement en acier. Fait que déjà là, c'est des économies qu'on va générer sur notre projet aussi. Moins d'excavation et tout. Au niveau de sa construction, ben encore là, il y a différents types de structures. Tu peux avoir l'ossature légère, comme je disais tantôt, on voit ça dans le résidentiel, assez commun. Mais aussi, on a le lamellé collé. Ça, le lamellé collé, c'est des grosses poutres de bois qui sont des petites pièces, en fait, qui sont collées ensemble, qui sortent des usines en préfabriqué. Tu as les poutres et tout. Puis les pontages de bois, tu as différents systèmes. Tu as des madriers de bois embouffetés. Tu peux avoir des CLT, c'est des lamellés croisés. Puis tu as des NLT. Fait que là, c'est plus technique, là, mais bref, il y a différentes techniques qui viennent notamment de l'Europe aussi au niveau de ces constructions-là. Moi-même, j'habite dans un bâtiment qui est construit en lamellé collé dans Saint-Roch, qui avait été construit à l'époque, je pense, par GM Développement. C'était un des premiers bâtiments résidentiels 6 étages en bois à Québec, voire même au Québec. Puis vous connaissez peut-être la tour Origine aussi, qui a été faite il y a quelques années. Qui fait 13 étages, tout en lamellé collé aussi, avec évidemment les noyaux de cage sont en béton. Mais je pense qu'ils ont pu prouver que pour la résistance au feu, le bois allait avoir la même résistance que, exemple, si tu la faisais en bloc de béton. Ils ont dû faire des genres d'études pour prouver la résistance auprès de la RBQ, qui était avant était assez récalcitrante à accepter ça.
Ben oui, puis je m'avais fait dire, moi, à l'époque, que le bois avait des propriétés des fois même plus intéressante que l'acier, parce que quand on arrive dans des sinistres majeurs, des feux, dans des usines, etc., ben, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Puis on le voit beaucoup dans des bâtiments de ferme. Ben, tu sais, les bâtiments vont chauffer, vont tordre, puis vont s'écraser.
En acier, oui.
En acier, tandis que le bois va avoir une plus grande résistance au feu. Fait que généralement, tu sais, ça va permettre de sauver une grande partie des bâtiments.
C'est une histoire de temps, en fait. Ils calculent le temps d'évacuation des gens, finalement. C'est exemple, qu'on fait une construction, on va dire, bon, les cages d'issue doivent faire une heure au feu, ou les planchers, une heure au feu, deux heures au feu. L'acier, effectivement, dans le code, on le considère incombustible comme le béton versus le bois qui est considéré combustible. Puis dans les anciens codes, c'était très limitatif. Mais maintenant, comme tu le dis, l'acier, il faut le protéger aussi parce qu'il peut se tordre. Fait que ça, tu vas mettre du gypse, ça, tu vas mettre un genre d'élément projeté en béton qui va conférer une résistance au feu. Alors que le bois, tu peux le laisser apparent sous certaines conditions. C'est juste que les ingénieurs vont surdimensionner les éléments de structuraux pour qu'ils puissent calibrer le temps où la poudre va restant en place, exemple, pour une heure. Fait qu'elle va être juste un petit peu plus épaisse parce qu'il calcule le temps que la carbonation vienne toucher.
Affecter la structure.
Exact.
Ouais.
Exact.
C'est quand même fou, hein?
Ben oui.
Puis en même temps, on va se le dire, le bois, c'est chaleureux.
Oui.
Puis tu sais, nos studios sont en bois, ça sent le bois. Tu sais, on arrive puis on tombe dans un mood un peu plus relax, je trouve. Là.
Effectivement. Puis récemment, on avait un gala, justement, c'est qu'au bois, pour une remise de prix pour le projet Smart Mill qu'on avait été chercher. Puis il y avait un autre lauréat qui avait monté sur scène, c'était Tanguay avec leur nouveau magasin en bois à Trois-Rivières. Puis d'eux-mêmes, ils disaient que celui qui ont construit tout en bois à Trois-Rivières, on dirait que les gens, ça avait été étudié, je pense, mais ça sous réserve, mais que les gens voulaient rester plus longtemps dans le magasin que leurs autres succursales, du fait qu'il y a une structure de bois qui est apparente. Parce que veux pas, c'est plus sensuel comme matériau, tu sais, c'est ça. On le sait tous. C'est pas intangible, mais c'est comme ça.
Mais c'est intéressant, je trouve, surtout dans des localités, comme tu disais, là, comme à Saint-Jean-Port-Joli. On le sait, l'architecture, vous créez un impact. Là, vous pouvez changer vraiment la vision d'un espace. Là, c'est ça le but aussi. Oui, d'être en harmonie avec la nature, d'être en harmonie avec les espaces ambiants. Je pense que non, c'est super intéressant.
Il y a plusieurs constructions qu'on se promène en voiture, puis t'sais, les constructions qu'on s'arrête notre regard le plus longtemps, c'est ceux-là qui a du poids apparent. Là. Quand on prend Henri IV puis qu'on descend Henri IV, à droite, il y a dans le parc industriel un bâtiment. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du bâtiment.
Kruger, ça se peut-tu?
Non. Mais t'sais,
on
voit tout de suite le bâtiment à Lévis dans le parc. Dans le parc industriel très rapproché du centre, il y a des bâtiments en bois aussi. Puis tu sais, c'est les premières affaires que tu arrêtes puis tu regardes, tu fais comme waouh, c'est beau là.
Mais là, est-ce que ça augmente beaucoup les coûts de construction?
C'est difficile à calculer, comme je disais. Ça dépend du type de structure que tu vas prendre. La ceinture légère, c'est la chose la plus économique que par rapport à une structure d'acier. Plus tard, on va peut-être en parler. On a fait un gymnase en 2008. Ben, en fait, c'était plus mon père à l'époque qui était là-dessus, qui a gagné plusieurs prix d'ailleurs aussi, c'est qu'au bois à l'époque.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Puis, il a décidé à l'époque de le faire en ossature légère en 2x8 plutôt qu'en bloc de béton comme les traditionnels gymnases qu'on voit partout parce que ça amenait vraiment une économie de coût. Une petite anecdote par rapport à ce projet-là, ce qu'il me dit toujours, c'est que le banquier avait appelé mon père et avait dit « Ben là, il faut que le projet respecte le budget. Tu n'as même pas une scène de plus sur le budget. » Fait que là, ça y mettait un stress de « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter le budget de la cliente qui était l'école Montessori à l'époque à Sillery? » Mais il dit « OK, je pense qu'on n'a pas le choix, on va faire comme pas d'habitude, justement, on va y penser différemment, sortir de la boîte. Puis il a décidé de faire ça tout en bois, avec des fermes en bois, puis il y avait vraiment une économie. C'est sûr que le lamellé-collé, par contre, lui va souvent peut-être coûter un petit peu plus cher, mais encore une fois, parce que des fois, tu as moins besoin de le protéger ou les fondations sont moins costaudes, bien, là, tu as peut-être une économie ailleurs que tu ne pensais pas sur la structure. T'sais. Fait que c'est difficile d'en faire le pour et le contre, mais il y a beaucoup d'avantages.
Mais je comprends, on ne peut pas dire pareil, ça va automatiquement être plus cher ou automatiquement, non, c'est à évaluer, mais c'est super intéressant.
Les trames structurelles sont différentes aussi. Fait que c'est une autre logique quand tu passes d'un système à un autre.
Okay. Puis tu sais aussi, tu amènes une acoustique intégrée. Là, nous autres, on a fait des murs de pin justement pour.
Dans le studio aussi, tu parles.
Dans le studio, effectivement, pour une question acoustique aussi. Ouais. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés qui n'est pas exploitée justement. Puis tu sais, le fait justement que ça a des propriétés acoustiques, mais ça fait des bâtiments moins éco, ça fait des bâtiments qui sont plus agréable aussi à vivre versus que d'avoir des résonances dans les immeubles sur des gens qui vont taper du marteau, vont faire de l'industriel, etc. Mais ça vient s'étouffer ces sons-là aussi par le bois.
Ça aide beaucoup. Puis un autre aspect qu'on parle pas souvent, c'est la question de la durabilité. Souvent, on a l'impression que le bois, les bâtiments vont durer moins longtemps dans le temps. Je sais pas pourquoi on a toute cette impression-là. Peut-être c'est à cause du fait qu'on fait du pavillonnaire, des maisons, puis bon, on pense que après 100 ans, la maison, peut-être qu'elle va être...
Tout le monde a vu mon patio, puis se dit, ça t'offre pas.
C'est ça, mais tu sais, tu regardes les vieilles granges, le CED, ces vieilles granges, ça fait plus de 100 ans. Il y en a qui récupèrent ces planches-là, puis ils veulent les mettre sur d'autres projets, puis ça se vend, il y a un marché pour ça. Moi, l'école d'architecture où j'ai étudié, c'est un bâtiment qui a presque 400, ben, peut-être 300 ans, le séminaire, c'est en bois. C'est 300 ans, là.
Quand même. Fait que, c'est pas une question aussi d'entretien. C'est pas l'entretien qui est inquiétant. Parce que justement, tu sais, je parlais de mon patio en joke, mais tu sais, moi, j'ai de la misère à entretenir tout ce qui est en bois chez nous.
Toute structure doit être protégée des intempéries, que ce soit du béton, de l'acier, du bois. Mmh. C'est sûr que tu as une structure que tu laisses au gel, dégel, les intempéries, le sel, elle va se désagréger. Mais différemment. Le bois, il peut pourrir, il peut fissurer, il peut. Donc, il faut le protéger pour le durer longtemps. Mais à partir du moment que ton enveloppe, que je l'enveloppe, c'est les murs, le toit, tu t'en occupes bien, ben, ta structure est au chaud. Elle va vivre le plus longtemps que tu vas bien entretenir ton enveloppe. Après ça, si tu adresses la question au niveau du revêtement, ben, encore une fois, si tu prends les revêtements comme du cèdre, de l'Est ou de l'Ouest, c'est un matériau qui n'a pas besoin d'entretien, puis ça peut durer 100 ans et plus sans entretien. C'est sûr qu'il faut accepter sa patine, mais aujourd'hui, des produits qu'on utilise beaucoup dans nos projets, c'est, ils appellent ça du cèdre prévieilli. Puis ça, dans le fond, c'est qu'ils font comme un genre de traitement. Soit ils prévieillissent, soit ils mettent une genre de peinture. Puis bref, ils vieillissent uniformément. Parce qu'on n'aime pas du cèdre, des fois, c'est que ou que le soleil va venir au noirci, l'autre bord, il va rester plus beige, tu sais.
Oui, oui, exact, définitivement. Avoir eu plusieurs propriétés haut de gamme, où ce que c'était justement du cèdre de l'Ouest, il fallait absolument que ça soit décrit à même le texte, là. C'est du cèdre de l'Ouest, là, parce que c'est des matériaux quand même de grande qualité.
Ça sent bon.
Les gens sont fiers de ça aussi. Puis une des choses aussi, quand on parle de fierté, c'est que vous avez des expériences avec le bois ou ce que vous avez fait, des réalisations, pas juste une non plus. Tu as parlé tantôt justement du gymnase de l'école Vision, qui était quand même pas rien. Là. C'était comme 600 mètres carrés, c'est ça?
Oui, ben c'est pas un si gros gymnase à l'époque. Je me disais, le budget était très petit. C'est une école privée quand même, mais ils n'ont pas les budgets des écoles publiques. Mais ce projet-là, qui était quand même assez humble, a eu beaucoup d'attention. Après coup, mon père en était même impressionné. Il y avait même une lettre de la vice-première ministre de l'époque pour le féliciter. Puis c'est devenu une référence sur plein de projets parce qu'il y a eu une économie. Puis les économies générées ont permis à l'époque de mettre d'autres stratégies comme la géothermie, toiture blanche. Fait que, tu sais, c'était super intéressant.
Ça a permis aussi d'offrir des services aux étudiants en plus d'avoir des économies sur le bâtiment. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun.
Exact.
Vous avez eu d'autres... D'autres prix d'excellence aussi?
Oui, on a eu, tantôt j'ai parlé un peu du Smart Mill qu'on a fait ici à Lévis en 2023. On a aussi la coopérative des travailleurs agricoles en 2021. En fait, on l'a fait en 2018, mais le prix, on l'a eu en 2021, encore une fois avec Sécobois. Encore un projet qui, c'était un agrandissement de leur usine pour faire un nouveau siège social avec des bureaux. On l'a fait sur une cour intérieure, ça fait que les espaces intérieurs sont super lumineux parce que justement, le bâtiment est comme mince, tu veux, c'est comme un genre de C en plan. Puis, on a été très, tu sais, dans le fond, dans le bois aussi, une question d'optimisation, dans le sens où, exemple, je disais tantôt, la sature légère, c'est moins coûteux. Puis, le lamellé collé, c'est plus coûteux. Parce qu'on a fait dans ce projet-là, c'est que, où qu'il y avait des espaces plus fermés, encloisonnés, on n'avait pas besoin d'avoir la structure apparente. On a utilisé la sature légère en bois, en mur porteur, puis même des fermes pour le toit. Alors que dans les endroits plus communs, les circulations et tout, là, on a été vers le lamellé collé. Puis avec des belles poutres de bois apparentes et des madriers. Puis même, une chose qu'on a, deux particularités dans le projet, c'est exemple les murs rideaux en verre, là, comme les bâtiments. Là, au lieu d'avoir des meneaux en aluminium, comme on voit souvent dans le commercial, on a utilisé des meneaux en bois qui sont à la fois portent le mur de verre, mais aussi portent le toit. Fait qu'ils ont deux rôles, dans le fond, structural, puis aussi pour le verre. Fait que ça amène vraiment une belle optimisation. Puis même au niveau de l'enveloppe, on a optimisé au niveau de la composition pour laquelle on a une subvention aussi. Fait que...
J'aimerais ça, on parlait tantôt là au premier bloc, on parlait de comment vous vous différenciez justement un peu des concurrents. On se cachera pas, il y a quand même beaucoup de boîtes d'architecture. Ouais. Gagner des prix, j'imagine, c'est des choses que donne beaucoup de notoriété, j'imagine.
Oui, c'est sûr.
Y a-t-il d'autres façons que vous faites du démarchage de clients? T'sais, c'est quoi?
Démarchage, mon collègue puis moi, on est inscrits dans différents groupes d'affaires, chambre de commerce, réseau immobilier, Rive-Nord, Rive-Sud, Corporation des parcs industriels. Fait qu'on fait, je suis dans les jeunes mécènes de l'OSQ, l'Orchestre symphonique de Québec, à titre de bénévole là-dedans. Donc, j'avais une rencontre juste ce matin, justement. Fait qu'on est un petit peu, on essaye d'être presque partout, même les nouveaux actionnaires, il y en a un qui s'inscrit dans le RAV. Fait que, il y a ça, ils ont fait aussi de la présentation un petit peu, des fois on rapproche les médias pour parler de certains points de vue, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. Puis aussi, on a participé à des concours d'architecture aussi.
Quand même cool, hein?
Ben oui, vraiment.
Puis est-ce qu'il y a des perspectives innovantes qui s'en viennent sur le bois ou sur qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Oui, effectivement, on a un projet actuellement qui est assez pété, on appelle ça une résille de bois. Ouais, je vois que tu te demandes, c'est quoi ça de résille? Imagine-toi comme un genre de tissu, une maille finalement, mais que les membrures sont en bois. Fait qu'en plan, ça a vraiment l'air d'un quadrier bien ben ordinaire, mais quand tu le regardes de la rue, du paysage, ça va être une courbe, ça va être vraiment quelque chose de super organique. Fait que c'est comme un voile de bois qui va être déposé sur un espace intérieur. Ça va être un nouveau siège social. Puis c'est toutes des pièces qui vont être toutes différentes. Fait que ça demande des logiciels hyper puissants de calibrage, de faire la programmation des connexions qui vont être toutes différentes à chaque croisement des membres de bois. Puis aussi pour calculer les pièces. Puis après ça, pour découper les pièces aussi. Ça prend des découpeuses numériques. Donc, ça demande vraiment des technologies. Encore là, c'est venu de Suisse, puis ça s'en vient ici. Puis c'est vraiment
super pété. Est-ce que ces fabrications-là se font directement ici au Québec ou on doit aller vraiment à l'extérieur?
Non, en fait, l'entreprise auquel je pense, elle, c'est une découpeuse, je pense, deux axes, trois axes. On n'a pas les quatre axes comme en Europe, parce qu'eux autres, ils font des arcs de cercle dans tous les sens, dans un sens et dans l'autre. C'est vraiment pété. Okay. Prévoir le centre Pompidou, je pense, ou Beaubourg chez Gourouban. J'ai fait un projet assez pété là-dessus. Mais bref, au Québec, on commence. Ça serait la première, je pense, au Québec, au Canada comme structure.
C'est quand même cool. Puis c'est à quel endroit que ça va être situé, ça?
Je
ne
vais pas mettre trop de précision. Ça va être sur la côte sud, la rive sud.
Oh ouais, ça va être vraiment cool. Fait que ça, pour vrai, là, il va falloir garder un œil là-dessus. Je trouve ça vraiment le fun. Puis tu sais, puis tu sais, souvent, quand on parle de projet d'architecte, c'est toujours pété, etc. Oui, tu sais, on veut amener, tu sais, la boîte à beurre à un autre niveau, tu sais, parce qu'il faut faire attention aussi de toujours, tu sais, oui, c'est beau optimiser, puis rendre ça le plus simple possible, mais tu sais, il y a toujours un projet avec un niveau artistique qui est important aussi à garder, puis tu sais, on laisse des traces pour plusieurs, tu sais, centaines d'années, des fois, là. Fait que, tu sais, pourquoi pas le faire correctement dès le départ, là.
Oui. Tu sais, c'est important de bien cerner le besoin de nos clients, leurs attentes. Puis c'est sûr que des projets où on le sait, on a plus de marge de manœuvre pour faire de la création, de l'innovation, mais il y en a d'autres qu'il faut être plus pragmatique. Puis c'est correct aussi, tu sais, il faut choisir, j'allais dire nos batailles, c'est pas des batailles, mais il faut choisir quel type de service qu'on rend pour quel type de projet. C'est pas tous les projets qui sont applicables à certains programmes, à certains usages. Fait que
là-dessus aussi, il y a toujours le conflit aussi, est-ce qu'on y va pour garder un budget qui fait encore du sens pour la construction ou on explose un peu le budget pour avoir un peu un truc funky aussi. Puis les promoteurs, souvent, ils vont dire, écoute, je comprends le volet funky. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que ça s'autofinance puis que la banque me prête 100% du projet. Puis ça, des fois, ça doit être confrontant, effectivement.
Oui, mais on arrive quand même à trouver des solutions pour optimiser puis mettre les sous à la bonne place. Des fois, il y a des choix qu'on se dit, ben ça, je pense qu'on pourrait mettre ça de côté ou faire dans une seconde phase. Puis là, ici, surtout investir là-dessus parce que c'est le landmark, c'est la signature. Puis là, ben exemple, l'enveloppe, c'est quelque chose souvent que j'ai comme philosophie, c'est peut-être pas la place où il faut couper parce que l'enveloppe protège tout. Puis l'enveloppe, on ne la changera pas. La décoration intérieure, le design intérieur, c'est important, mais c'est des choses qui vont vivre 10 ans, 15 ans. Mais l'enveloppe, ta brique, tu ne changeras pas dans 10 ans. Là, c'est fait pour durer 40, 50 ans. Fait que ça vaut la peine d'investir sur une bonne brique, des bonnes fenêtres, parce que c'est ce qui protège tout le reste, la structure, puis ton intérieur. Mm-hmm.
Puis tu sais, moi, c'est ce que j'adore de l'architecture d'époque. C'est toutes les insertions qu'ils faisaient avec la maçonnerie. Tu sais, il n'y a pas un mur qui était flat d'en bas jusqu'en haut. Il y avait toujours des insertions qui étaient faites. Ouais. Il y avait, tu sais, des impostes qui se faisaient, il y avait comme plein de détails architecturaux qui donnaient un autre look au bâtiment. Ouais. Là. Ça faisait vraiment toute une différence.
Puis on essaie de, à chaque fois qu'on fait un projet, on essaie toujours de dire, OK, comment ça va vieillir dans le temps? Tu sais, être un peu au-dessus des tendances, des modes, parce que les modes, ça passe. Un bâtiment, ça passera pas, on le fait pour qu'il reste là longtemps. Fait qu'on le fait dans une sorte de vision assez classique, contemporaine, mais classique qui... Il va bien vivre, finalement, que la personne, le prochain propriétaire qui va l'avoir va être fier d'acheter ça, puis que ça va être intemporel.
Moi, ce que je sens, c'est de la passion. Sens-tu la passion, Jeff? C'est d'écouter le projet. Hein? On voit les étoiles, vous le voyez pas, vous, là, à la maison, mais les étoiles dans les yeux dès qu'on parle de projet, c'est vraiment inspirant. Vous êtes à l'écoute de CJMD. Toutes nos émissions sont en diffusion le samedi en direct, donc au 96.9, le samedi à 11h et en rediffusion sur toutes nos plateformes. On va parler après ça de densification des zones urbaines. Ça va être vraiment intéressant. Donc, restez à
l'écoute. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Chemin Craig, Saint-Nicolas.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous. Vendons votre maison. Vous avez un projet de vente, vous avez un projet d'achat, mais encore mieux, un projet d'investissement, contactez-moi, jean-françois-morin.ca ou sur mon cellulaire 418-801-8011. Je suis fou de même, j'ai mon numéro de téléphone à la radio.
Dans une grosse période, on est au début juin, les transactions n'arrêtent plus, puis tu donnes ton numéro de téléphone, j'aime ça, t'es un gars de défi.
On aime ça, toujours co-animé avec Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez Vigie Services juridiques.
Oui, exact. VigieQuébec.com, vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon lien Calendly sur mon site. On a la chance d'être avec Antoine Guy de chez Atelier Guy Architecte. On a vraiment parlé, bon, on a parlé du bois, on a parlé de ton parcours. Ceux qui ont manqué nos émissions, qui viennent d'arriver, ben sachez que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur nos différentes plateformes. Mais là, on veut parler de densification, parce que je pense que ça reste un sujet de l'heure. Hein?
Oui,
c'est,
tout à fait.
Ouais. Donc, je voulais savoir un peu, tu sais, puis on a des idées préconçues négatives par rapport à ça souvent. Hein? On voit le négatif de densifier. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
Ben effectivement, je pense qu'il y a souvent une image qui est négative du fait de... Comment on a une image un peu trop peut-être exagérée de ce que ça peut être la densification, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on voit beaucoup. Les urbanistes en parlent, tout ça. Puis souvent, l'image qu'on peut avoir, c'est comme un peu New York. On se dit, bon, c'est une ville qui a des grands gratte-ciels, puis là, c'est l'achalandage, c'est le bruit, c'est l'ombre. Il n'y a pas de place pour la verdure, pas de place pour les familles. Puis moi, ce que j'avais le goût de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres formes urbaines de densification que ce modèle-là. Oui, New York, Manhattan, c'est une forme qui marche, qui est extrêmement dense, qui est un modèle en soi, mais il y en a plein d'autres. Puis j'aime bien faire la comparaison avec Paris, parce que Paris, c'est une ville qui est aussi très dense, mais que quand on y pense, on n'a pas cette impression-là de densité comme Manhattan. Mm-hmm. Tu sais, puis j'ai été chercher quelques petites statistiques rapidement. Puis, par exemple, à Manhattan, on a à peu près 28 000 personnes au kilomètre carré. Puis à Paris, on a à peu près 21 000 personnes au kilomètre carré. Puis pourtant, quand on regarde les deux villes, le skyline, New York, c'est super intense avec les gratte-ciels. Et là-bas, c'est du 7 étages uniformément. Mmh. Fait qu'on se dit, comment ça, il arrive à avoir une densité qui est quasiment pareille, mais à une échelle humaine. Fait que c'est là que ça pose la question, OK, densité, oui, mais comment? Puis justement, de conserver, je pense que c'est ça le point que je voulais amener aujourd'hui, c'est toujours conserver cette idée d'échelle humaine là-dedans. Puis c'est là qu'on peut amener un intérêt pour tout le monde plutôt que ces modèles-là très, on va dire, corporate ou très pas exagéré, mais
d'un mais tu sais, en même temps, tu sais, on parle de 21 km carrés, 21 000 personnes par kilomètre carré ouais. à Paris, 28 à Manhattan, puis à Québec, c'est 5,8, c'est 4 fois moins. C'est quand même pas beaucoup, ouais. là.
Ben, ça dépend des quartiers, parce que toi, la statistique, tu l'as pris sur la ville de Québec.
Le recensement, là, ouais. Effectivement.
Parce que je pense que si tu prenais le quartier Saint-Jean-Baptiste, probablement, je pense que c'est lui qui est le plus dense à Québec. Puis là, peut-être que ça monte peut-être à 8 000 ou 10 000, peut-être, dans Saint-Jean-Baptiste. Mais bon, je sais pas par cœur. Mais effectivement, il y a d'autres modèles de densification que celui-là qu'on pense. Puis aussi, l'autre point que je voulais amener, c'est pourquoi on parle de densification. Je pense des fois c'est bon de revenir. C'est pas une fin en soi, c'est pas un dogme, mais c'est qu'il y a des paramètres qui nous ont amenés à dire ben à un moment donné, il faudrait que le territoire on le consomme quelque part, on le consomme le territoire, puis la terre est pas infinie. Hein, je veux dire, il y a une superficie carrée à tous les territoires, maximum. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? On parle d'optimisation en énergétique, mais il faudrait aussi peut-être l'adresser au niveau du territoire, puis justement, ben il y a les raisons environnementales, on le sait tous, c'est protéger. Si la ville est plus compacte, ben, on protège les écosystèmes, on protège nos forêts, on protège aussi nos terres agricoles qui nous nourrissent. Hein. On sait qu'on est dans un monde où la population mondiale va augmenter et la pression sur les écosystèmes va augmenter aussi. Fait que je pense que c'est un peu dangereux d'aller sacrifier les meilleures terres agricoles qui sont souvent au pourtour des villes. C'est là qu'on a les terres arables les plus profondes pour faire la culture agricole. Fait que oui, on peut faire la culture urbaine, mais est-ce que ça va être la seule solution? Bref, c'est des réflexions que je trouve importantes de mettre en place.
Puis tu sais, moi, je trouve qu'au niveau de l'urbanisme, là, il devrait avoir différents layers qui soient réfléchis aussi. Tu sais, on a le layer d'aujourd'hui, c'est quoi le vol d'oiseau de qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu sais, si jamais la densification est nécessaire, ben tu sais, on va agrandir les périmètres pour construire des plus gros bâtiments aussi. Fait que tu sais, on ne pourra pas construire une tour sur un terrain d'unifamilial. Il va peut-être falloir avoir 6, 8, 10 terrains d'unifamilial pour pouvoir construire une tour qui va faire du sens. Fait que tu sais, de rajouter un deuxième layer pour dire, ben écoute, mais qu'on arrive à une densification où ce que la nécessité des logements va arriver à ça, ben tu sais, il faudrait peut-être avoir un périmètre urbain dense de cette façon-là. Puis allons-y avec l'extrême où ce qu'on compare à Paris-Manhattan, puis voici un layer sur lequel on devrait prévoir nos infrastructures principaux.
Tout à fait.
Puis après ça, d'arriver vers là. Fait que quand on va avoir une stratégie de croissance ou de, tu sais, au lieu de toujours défaire les infrastructures qu'on fait pour en refaire des nouvelles, puis dire, ah, ben, on n'avait pas pensé à ça. Ah, ben, on n'avait pas pensé à ça. Mais, tu sais, de rajouter trois couches de layer, pour moi, ça changerait complètement la donne.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Effectivement, d'abord, quand on parle de densification, il y a différents modèles, puis il y a beaucoup de modèles applicables à différents milieux. Tu sais, il y a des milieux très denses où, on pense à Montréal ou que le métro, c'est sûr que là, ça justifie d'avoir des bâtiments qui sont plus hauts. Il y a un courant en urbanisme, on appelle les Transit Oriented Development, je pense, les TOD, qui font que le long d'un parcours de transport structurant, justement, qui est plus lourd, là, que ce soit le métro, le tramway ou d'autres choses, ou un REM, ben là, on va construire aux stations des bâtiments qui sont plus élevés, avec des genres de petits centres-villes, à 5 minutes de marche de tout. Fait que c'est l'idée de faire plein de pôles comme ça. Puis là, c'est là que, oui, effectivement, monter en hauteur, ça peut être plus pertinent. À l'inverse, dans nos banlieues des années 50, qui sont en ce moment en train peut-être de vivre un genre de virement, parce que bon, les gens plus âgés s'en vont en résidence pour aînés. Là, ces bâtiments-là des années 50, on fait quoi avec ça? Sont-ils encore attractifs? Fait que ça pose la question, il y a peut-être des opportunités d'aller densifier ces maisons-là. Tu sais, exemple, je l'ai mis dans mon petit document aujourd'hui pour, je voulais en parler. Tu prendrais la ville de Lévis ou la ville de Québec, un terrain aujourd'hui, un bungalow. Bon, il y a une famille sur un bungalow. Tu ferais juste amener une famille de plus sur le même territoire. Tu viens de doubler ta population dans l'agglomération sans prendre plus de territoire. Puis te doubler, c'est quand même majeur. Puis on parle pas d'une densité de New York. Là, on a juste deux familles sur un terrain. Tu gardes les cours arrière, tu gardes les arbres, tu gardes la canopée. Tu as encore un paysage super humain. Fait que je pense que il y a différents modèles de densité. Puis justement, j'en ai cité quelques-uns.
Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais, moi, je suis un gars de Lévis. Puis le centre-ville de Lévis, là, tu sais, les constructions qui ont été faites dans les années 60, 70, là, ben, ils se sont construits autour du pôle. Puis le pôle, ben, tu sais, c'était le Kennedy, Guillaume Couture qui se croisaient, puis tu sais, ça se grossissait autour de ça, qui fait en sorte que ces propriétés-là sont directement dans les centres, sont directement à côté des services. Ouais. Sauf qu'il y a juste une famille qui habite là. Puis pourtant, on pourrait rendre ça plus accessible à plusieurs familles. Puis, tu sais, de rajouter un étage sur les bons vieux bungalows des années 70, ben, tu sais, déjà là, tu viens d'avoir une autre unité parce que, tu sais, on s'entend que c'est du 1000-1200 pieds carrés. c'est d'avoir une deuxième unité qui est disponible. La cour permet d'avoir 4 voitures sans aucun problème. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant d'amener cette réflexion-là aussi. Là.
Oui. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Puis, pour venir aujourd'hui, j'ai fait quelques petites recherches. Puis, on sait tous que Vancouver, c'est un modèle assez intense là, de ville. L'abordabilité là-bas est juste pas là. Là. C'est une ville qui coûte extrêmement cher où vivre. Puis justement, ben cette problématique-là qu'ils vivent, qu'on vit pas encore ici, même bien que c'est cher, mais c'est pas comparable. Là-bas, ça amène des idées, des stratégies qui sont super intéressantes. Puis je voulais parler un peu, comme par exemple, ils ont tous revu leur règlement de zonage, je pense en 2018, pour permettre sur un terrain qu'un propriétaire pourrait dire de subdiviser son lot, puis dire, par exemple, dans ma cour, je vais aménager une petite construction accessoire, une petite maison pour une famille, ou sais-tu, oui, les maisons bigérenas, en tout cas. Tu me comprends?
De deux générations.
Merci, ouais, c'est ça. C'est comme, sais-tu, un ou une baguette, moi, je prends deux baguettes.
Ouais, ouais. Mais, tu sais, c'est super cool. Tu dis, ben OK, oui. ça peut amener des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de vivre dans ces quartiers-là. Ah, du coup, ils peuvent venir vivre dans ces quartiers-là. En plus, ça va remplir le transport en commun qui va être encore plus efficace, achalandé. Puis, ça permet à la personne peut-être de vendre un lot, ça lui permet un revenu. Fait que, mm-hmm. Il y a plein d'avantages à revoir. Fait que, bref, il faut que peut-être les municipalités ici au Québec commencent à songer à avoir plus de flexibilité, d'agilité dans leur règlement pour s'assurer des formes urbaines qui vont être un peu plus flexibles puis qui vont répondre aux enjeux d'aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des familles, c'est-à-dire monoparentales, des familles éclatées, il y a des gens seuls, des personnes âgées. Fait qu'il faut voir, puis si on veut attirer aussi plus d'immigration, il faut avoir différents modèles qui s'inscrivent à différentes clientèles.
Puis, tu sais, pour les séparations, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, là, tu sais, d'avoir chacun sa maison sur le même terrain avec des rideaux opaques, par exemple.
Très opaques. Un ou deux rideaux.
Avec chacun son garage jusqu'à la rue pour pas qu'on sache qui rentre qui sort.
Pas de fenêtre dans la maison ce soir.
Non, mais tu sais, c'est quand même super intéressant. Puis, c'est des choses que, tu sais, on a eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes au niveau de la densification, au niveau du zonage, de l'urbanisme, etc. Mais, tu sais, c'est jamais mentionné, c'est jamais réfléchi de cette façon-là non plus. Puis, tu sais, les conseils de ville, sans dire que c'est clos, ben, tu sais, les stratégies sont jamais établies à long terme.
Non.
Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est ça que je trouve plate. C'est qu'on agit sur des mandats. On dirait que c'est sur le mandat. C'est comme, OK, on est là pour un mandat de quatre ans. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour les 4 prochaines années? Au lieu de penser long terme, puis justement, comme on dit, de penser l'immigration, ben, comme on dit, les séparations, mine de rien, c'est ça pareil. Là. Ouais. Puis il y a beaucoup, même des couples maintenant qui décident de vivre séparément. Donc, ça prend de l'espace, ça prend des maisons, ça prend...
Exact. Puis, tu sais, la société évolue. On a eu la pandémie récemment. Ça a amené aussi d'autres façons de vivre. Les gens ont peut-être besoin de travailler à la maison avec des bureaux. Fait que même dans les condos aujourd'hui, j'ai des promoteurs qui me disent, ben là, c'est important d'avoir un bureau dans le condo. Ouais. Fait que ça amène d'autres façons de faire. Mais notamment, au niveau de la vision, t'en parles, super intéressant. Tu sais, je pense que les Européens sont très forts là-dessus. Je sais qu'à Paris, ils ont fait une réflexion, ça fait quoi, 5-10 ans, je sais pas trop, ils ont pensé Paris 2050. Puis ils ont fait un grand concours de réflexion auprès d'architectes, d'urbanistes qui ont fait plein d'hypothèses. Puis c'est pas juste du pelletage de nuages, ils sont arrivés avec des vraies décisions concrètes là, sur différents aspects, notamment sur le transport. Par exemple, Paris, en ce moment, ils sont en train de construire le grand système métropolitain de transport, une genre de grande ligne périphérique de métro. Je pense que c'est la plus longue en construction en Europe actuellement pour aller desservir tous les quartiers périphériques. Ça, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Fait que quand tu projettes une ville, ça se construit sur 20, 30, 40 ans. Ça prend, à partir du moment que tu as une vision, il faut après ça mettre ça en place. C'est pas comme une maison. Fait que il faut penser la ville, il faut réfléchir la ville dans comment on va vivre en 2050. Il faut vraiment faire un travail de projection, puis pas l'analyser sur nos paramètres d'aujourd'hui. Il faut l'analyser sur des paramètres futurs. Ça demande un travail d'anticipation, mais on n'a pas le choix de le faire parce que la ville de demain ne sera pas la ville d'aujourd'hui. On ne vivra pas de la même façon. L'intelligence artificielle va amener des opportunités. Fait qu'il faut vraiment l'analyser d'une autre façon que celle d'aujourd'hui. Mm-hmm.
Puis, une des choses que j'aimerais que tu puisses nous donner, c'est quelques conseils juste avant de finir dans un développement de projet. C'est sûr que, tu sais, juste ce volet-là, on pourra en parler pendant des heures. Là. Mais, tu sais, si on y va, bullet point, ou tu sais, sur différents éléments qu'on devrait faire sur... notre planification dans nos développements de projets, de quelle façon tu...
Ben, un projet, quel que soit le projet, il y a toujours des étapes, des échelons, des écueils à traverser. Puis le plus grand conseil que je peux toujours donner, c'est d'être bien informé. Ça, c'est important parce que quand tu es bien informé, tu peux éviter plein de problèmes. Puis l'information, tu peux l'avoir des fois toi-même, mais des fois, ça va te nécessiter d'aller chercher des consultants. Puis dans le milieu de la construction, il y en a plusieurs. Oui, il y a les architectes, il y a les urbanistes, il y a les courtiers, il y a les même les avocats, les historiens.
Non, mais c'est vrai. J'aime son même.
Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, je pense que oui,
je t'attaquine. Ben oui.
Puis il y a des inspecteurs, des historiens, des urbanistes, mais je connais moins la profession, peut-être que c'est plus aussi. En tout cas. Mais tout ça pour dire que...
Bien s'entourer.
Bien s'entourer, super important, parce que tout dépend des épargnes. Par exemple, quand tu es en chantier, ben il faut que tu sois connaissant de la construction. Si tu ne l'es pas, prends quelqu'un qui va pouvoir superviser pour toi et t'assurer que le résultat final va être tel que les plans que tu as payés pour les avoir, parce que sinon, tu vas être très déçu dans plusieurs années. Au niveau du financement, il faut que tu ailles chercher des gens qui vont bien chercher un bon financement, les taux d'intérêt qu'elles vont être. Est-ce que tu as prévu des contingences au niveau du développement de ton projet? Sur ton site, si tu vas voir un site, ce site-là, y a-tu de la contamination? Y a-tu des problèmes d'érosion? Y a-tu des servitudes? Est-ce qu'il va y avoir un développement à 100 mètres, mais je sais pas, 100 mètres de là, un gros développement immobilier? Est-ce qu'il est situé au niveau... Est-ce qu'il est assujetti des règlements du ministère de la Culture, de la Commission d'urbanisme? Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent avoir beaucoup de conséquences. L'état d'un bâtiment aussi, y a-tu de l'amiante, y en a-tu pas? Y a-tu ses fondations, sont-tu bonnes? Fait que bref, à chaque étape, il faut vraiment être bien informé. Puis si on ne l'a pas, aller chercher les gens pour ça. Puis l'architecte, à quelque part, c'est un peu la main du client, je le dis souvent. C'est dans le sens où on vient vraiment l'assister du début à la fin. Fait qu'on est comme une assurance pour lui. C'est sûr que des fois, on peut se dire, bon, est-ce que ces services-là sont essentiels? Mais ça peut éviter beaucoup de problèmes.
Et non, vraiment.
Quand on parle de la contingence, là, la contingence 2023 est complètement différente versus 2020. Puis elle est complètement différente versus 2018. C'est aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, juste ces aspects-là, où ce qu'il y a eu un changement ultra rapide dans tout ça, faire en sorte qu'il y a des changements qu'il faut se tenir à jour, puis il faut peut-être rechanger notre pro-forma de contingence, parce que ça l'amène...
Mais tu sais, l'importance d'être bien entouré, je veux faire du pouce là-dessus, parce que en plus, moi je regardais pour acheter un condo commercial il y a 6 ans, dans Saint-Roch, pour mettre les locaux Vigie, puis je trouvais ça super intéressant parce que c'était vraiment en plein, là, tu sais, du frein, là, qui monte, là, en ville. Fait que je me dis, crème, il y a du trafic là, tu mets le logo sur le building, super visibilité, il y a le parking en face, c'est accessible. Puis finalement, je faisais affaire avec un courtier immobilier, justement, qui m'a dit, ouais, mais Sylvie, on prévoit un gros projet de développement dans ce parking-là. Le parking va être enlevé, ça va être construit. Fait ta visibilité que tu es en train de me parler, là, tu l'auras plus dans bientôt. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les constructions se font maintenant, là, c'est commencé. Donc, tu sais, l'importance d'être bien entouré. Si j'avais pas eu un courtier à ce moment-là, là, j'aurais probablement acheté. Puis là, aujourd'hui, je serais vraiment, tu sais.
Puis il faut prendre en considération tous les facteurs externes. Tu sais, bien, présentement, il y a plein de développements qui se font dans les centres, autant à Québec qu'à Lévis. On a des promoteurs qui ont acheté des terrains que ça fait 10 ans, 15 ans, qui ont laissé les buildings là, qui ont laissé les commerces là depuis vraiment longtemps, mais dans leur plan de développement à eux, c'est mais qu'ils aient fini leur projet de v'là 10 ans, ben ils s'en viennent sur celui-là. Fait que tu sais, de sonder le voisinage, de sonder qu'est-ce qui s'en vient, de regarder les paramètres externes qu'on ne contrôle pas, ben c'est important. Puis le fait de parler avec une équipe engagée, mais ça fait en sorte que tu sais Antoine est au courant d'un autre architecte qui a fait un nouveau projet, exact. Il s'est tenu à jour sur tel projet, etc.
Il va dans les réseaux, donc il est au courant de ce qui se passe. Non, c'est vraiment important.
Ça fait vraiment une grosse différence par rapport à tout ça. Écoute, pour vrai, là, Antoine, c'était incroyable. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion peut-être de se revoir, c'est sûr, dans des événements, mais peut-être aussi de te réinviter dans quelques saisons à la Bulle immobilière. Ça va être assurément des nouveaux projets, de nouvelles récompenses sur tes nouveaux projets d'architecture. Ça va être vraiment cool. Vous êtes à l'écoute de la Bulle immobilière avec Jeff et Sylvie.
Oui, meilleure façon de te rejoindre, mon cher, pour finir.
Mon Dieu, ça peut être par courriel ou par téléphone, tout simplement. Mon numéro de téléphone au bureau.
OK. Donc, ton courriel, au moins, tu peux donner ton courriel. Fais pas comme Jeff, le numéro de téléphone, c'est un peu tricky, mais...
Mon courriel, c'est a.guy, donc Guy, c'est G-U-Y, A commercial, Guy, architecte, avec un S.com.
On peut vous suivre sur les réseaux sociaux,
j'imagine. Oui, vous allez voir le site internet d'Atelier Guy Architecte également.
Puis pour vrai, aller voir les photos, aller voir les projets, c'est des réalisations incroyables. Ça vaut vraiment la peine de regarder vos projets. Un gros bravo pour vos succès.
Merci de m'avoir invité aujourd'hui à vous deux, c'est super impressionnant.
C'est des belles sources d'inspiration. Manquez pas le bingo aussi demain avec la gang à Chico. Passez une belle journée, bonne fin de semaine tout le monde.
La Bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Lui, il va acheter ton bloc, Airfortin.com.